Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et nous sommes donc avec Raphaël qui habite Clermont. On rappelle peut-être les propos de Jean-Luc Mélenchon, de même que vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler. Tout ça, c'est écrit d'avance, a dit Jean-Luc Mélenchon. Raphaël.
Oui, donc moi, je me référerais bien à l'article là, qui vient d'être mis en ligne sur le point où votre collègue hésite entre stratégie et nature. J'allais dire, c'est les deux. Mélenchon a décidé, il est supérieurement intelligent, faut pas lui enlever ça. Il voit que la campagne ne décollera jamais, qu'il est médiocrement ou presque à 10%, pour quelqu'un qui a fait bien plus. Donc là, il va faire feu de tout bois. Alors, du complotisme, ça c'est certain que c'est du complotisme. Également, être un factieux, parce que M. Mélenchon est génétiquement un factieux. Et trois, je vais peut-être aller peut-être
génétiquement,
loin,
je ne sais pas ce que ça veut dire, génétiquement,
oui, enfin,
factieux.
En lui-même, il est factieux, depuis qu'il est dans la politique. Et en plus, je dirais
qu'il n'était pas, d'ailleurs, si vous me permettez, quand il était au PS, il y a eu plusieurs Mélenchon. Hein.
C'est pas faux. Et en plus, je dirais presque que c'est un collabo.
Bah, écoutez, faisons attention aussi aux mots qui sont employés.
Mon cher Pascal,
je suis d'accord avec vous, mais comme...
Je justifie, si vous voulez.
Comme je suis là aussi pour modérer les propos et que les collabos, ça renvoie évidemment à une image ou même à ce qui s'est passé entre 40 et 44, je dis faisons attention aux mots que nous employons.
C'est pas cet angle-là que je voyais, Pascal. La collaboration, elle est avec les islamistes salafistes. Mmh. On sait très bien que notre extrême-gauche fricote, conseille, écoute, parle avec les islamistes salafistes. Et M. Mélenchon, s'il ne le fait pas en tête de gondole... Il le fait en queue de gondole. Elle est là, la collaboration, avec des gens dont il est en train de nous dire que des incidents vont arriver. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que sa campagne ne décollera pas, donc vous y voyez une stratégie. Or, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas certain que ça le serve, quand même, ce qui s'est passé hier.
Oui, mais je parlais de naufrage. Mélenchon sent que c'est la fin de sa carrière, dans une dizaine d'années, la fin de sa vie. Et il est en plein naufrage, donc il fait tout pour qu'on parle de lui. Et donc, être à 10% quand vous avez été à presque 10 points de plus, ben c'est très compliqué. Derrière lui, ça pousse. Les jeunes comme Autain, etc., le poussent. Et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, les artistes.
Bah, c'est sa dernière élection, de toute façon, parce que là...
Oui. Ah bah, faut espérer.
Ben, faut espérer. Ça, c'est votre avis. Mais en revanche, on peut imaginer que ce soit sa dernière campagne de par
oui,
l'âge
ça,
qu'il
dis,
a et effectivement.
L'âge, oui.
Voilà, l'âge, de par l'âge qu'il a et on peut imaginer que si on prolonge les courbes, ce ne sera pas forcément un grand succès que cette campagne. En tout cas, le score qu'il avait obtenu en 2017, a priori, il est aujourd'hui pas dans. N'est pas dans la même disposition.
On ne l'aura pas, c'est certain. Et puis je disais complotiste, parce que c'est complotiste. Il était contre le masque, il était contre le confinement, il était contre la vaccination, il était pour Raoult, maintenant il ne sait pas quoi dire pour salir Raoult. Il est complotiste, lui-même, et là ça le prouve.
Il est né le 19 août 1951, il va donc célébrer cette année ses 70 ans.
Voilà, donc il est senior, on va pas dire trop âgé, il est senior. Mais on peut se retrouver naufragé aussi, hein, et orchestre.
Je suis d'accord avec vous, mais je disais, c'est sa dernière campagne, sans doute en regardant son âge, effectivement, on n'imagine pas repartir après deux campagnes, même trois campagnes, on ne l'imagine pas repartir à 75 ans pour une nouvelle campagne présidentielle dans 5 ans.
Bah, ça sera peut-être compliqué, mais là, on est en plein, et c'est surtout, et je ne veux pas monopoliser, il crache sur la figure des victimes du terrorisme, je suis désolé, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des plaintes qui sont dans l'air.
Ben oui, parce que pour lui, l'assassinat de 7 personnes, dont 3 enfants juifs, est un grave incident. Donc c'est ça a de quoi choquer. C'est vrai
et
que c'est bon.
Ça nécessite une plainte. Je n'ai pas eu le temps de feuilleter le code pénal, mais je pense que c'est une, à défaut d'être une diffamation, on n'en est pas loin. C'est une calomnie.
C'est en tout
et
cas.
La calomnie, c'est un délit.
Patrick Klugman, qui est un des avocats proches des victimes de Mohamed Merah, dont le frère d'ailleurs était défendu par le garde des Sceaux, hein, le frère de Mohamed Merah. Si Jean-Luc Mélenchon ne les retire pas, il parle des paroles, nous ferons une dénonciation au parquet du fait de diffusion de fausses nouvelles parce que nous rentrons dans le cadre législatif. Et j'espère que le ministère public sera assez diligent pour que le cas échéant, Jean-Luc Mélenchon réponde de ses paroles devant une juridiction. C'est ce qu'a dit Patrick Klugman.
C'est ça. Et c'est même un comportement de factieux, parce que je sache, il est encore un homme politique en France. Et on donne des intentions à l'État que l'on sert, des intentions criminelles. C'est très grave. C'est bon. Aussi pénalement répréhensible.
Merci Raphaël, vous étiez le premier auditeur. Moi, je lance un appel. Merci. Je voudrais que quelqu'un à ce micro vienne défendre Jean-Luc Mélenchon, parce que je vois une liste effectivement d'auditeurs qui ont plutôt envie de ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir forcément un auditeur qui nous dise, peut-être est-il de la France insoumise d'ailleurs, cet auditeur, ça serait intéressant de l'écouter et d'écouter la défense. Il est 13h07, je salue Greg Karanonis.
Bonjour à tous.
Une belle semaine qui commence, une belle semaine de soleil, donc ça nous fait plaisir, ça va nous mettre un peu de baume au cœur, nous en avons besoin, convenons-en.
Absolument, on trouvera quelques musiques d'ailleurs pour égayer cette semaine encore.
Je l'espère, et quelques informations aussi, pourquoi pas.
Oui, c'est le principe de l'émission.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je salue Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Qu'arrive-t-il à Jean-Luc Mélenchon ? Est-il devenu complotiste ? Le leader de la France insoumise a créé la polémique. Écoutez ses propos tenus hier sur Radio France.
Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça ? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papy Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà.
Jean-Luc Mélenchon a-t-il tenu des propos complotistes ? Doit-il s'excuser ? C'est très grave et dangereux, écrit Denis sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Comment peut-on tenir ce type de discours ? Quelle erreur ! Il cherche à faire le buzz ou quoi ? S'interroge Emmanuel. C'est de la provoque pour Patricia, comme ça on parle de lui. Karine lui conseille de prendre un peu de camomille et dire qu'il avait osé, déclare, rajoute Virginie, la République c'est moi, j'ai mal à ma France. Si c'est le cas, vos réactions sur la page Facebook de l'émission.
On peut s'interroger également sur le fait que les journalistes aient assez peu argumenté face à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, et il n'y a pas eu de réaction sur ce qui s'est dit. Et là aussi, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a parfois des réactions différentes en fonction de qui on interroge. Si Mme Le Pen, par exemple, avait dit cela, je pense que les journalistes autour de la table auraient peut-être réagi plus fortement. Et puis, il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon que Charlie Hebdo, l'attentat de Charlie Hebdo, c'était hors période électorale, que le 13 novembre, c'était hors période électorale, que Nice, Magnanville, la préfecture de police et tant d'autres, c'était hors période présidentielle. Abdelatif est avec nous, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci, vous êtes commerçant. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Jean-Luc Mélenchon ?
Bah écoutez, je pense que c'est une stratégie, c'est une mauvaise, parce qu'il y a deux cas de figure où il a raison, et même les initiateurs de cette future opération, ils vont l'annuler puisqu'ils viennent d'en parler. Dans ce cas-là, il aura tort, il sera décrédibilisé. Moi, ce que je voulais juste dire, parce que des gens derrière, il doit y en avoir énormément de gens qui vont lui reprocher ça. Alors, je veux dire que finalement, quand on est musulman dans ce pays-là, on n'est jamais tranquille. On n'est pas tranquille parce qu'on a l'extrême droite qui nous attaque tous les jours, qui nous rend responsables de tous les maux de la France. Et même celui qui prétend défendre les musulmans aujourd'hui, il nous jette aussi. Hein, parce que de toute façon, à travers ces dires, il va y avoir énormément de commentaires et on va dire « oui, les musulmans, ils ont fait, oui, les musulmans, et oui ». Et c'est une grave erreur. Monsieur Jean-Luc Mélenchon fait de la politique depuis 60 ans. Je ne pense pas qu'hier, c'était quelque chose, c'est une erreur de sa part. Non, je crois que ça a été réfléchi. Pour quelle raison ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est faire le buzz ? Mais à mon avis, quand on dit qu'il y aura une opération de prévu, est-ce que quelqu'un peut penser un seul instant qu'aujourd'hui, un président de la République sortant, un gouvernement, vont initier une opération dans laquelle il y a des victimes nationaux pour le pouvoir ? Ils ne sont pas dans des républiques bananières, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Réveillez-vous. Remettez sur la table un débat sur l'économie, un débat sur le social, un débat sur plein de choses. Mais laissez un peu ce côté cynique de la politique. Moi, je l'appelle côté cynique parce qu'il n'apporte rien à la société. Il fait qu'éclater la société. Tout simplement, il n'apporte rien au débat. Le débat, il faut le reconcentrer sur ce qui intéresse les Français. et je suis sûr que les Français, ce qui les intéresse, c'est le futur de leurs enfants, l'emploi, la sécurité, bien sûr. On ne va pas fermer les yeux et dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité, mais il ne faut pas inventer des histoires imaginaires. Si c'est dans l'imaginaire de M. Jean-Luc Mélenchon, on ne peut rien lui reprocher. Si par contre il détient des informations, il est dans l'obligation de les partager avec la police pour éviter un massacre.
Non mais c'est intéressant de savoir comment les gens réagissent quand ils sont en difficulté. On l'avait vu le soir de la présidentielle, lorsqu'il est, qu'il n'est pas au deuxième tour, il réagit mal.
Puisqu'il n'admet pas
manifestement sa non-présence. Lorsqu'il y a une perquisition, une nouvelle fois, il réagit mal. Et là, on n'est pas tant dans la réaction, mais dans une phrase qui est dite, qui a priori peut étonner. Alors, si on fait l'exégèse de la phrase, il dit aussi, nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà ces bateaux. Tout ça.
Mais alors,
c'est terrible. Je trouve que ces phrases sont terribles parce que, je vous le répète, si c'était Marine Le Pen qui avait dit cela, je pense que la réaction qui est déjà forte aujourd'hui, elle serait encore plus forte ce matin.
Marine Le Pen, je crois qu'elle est en train de boire du petit lait en ce moment parce que finalement, ça l'arrange finalement que l'on puisse dire qu'il peut y avoir ce genre de choses. Et d'ailleurs, M. Jean-Luc Mélenchon devrait poser la question. Si vraiment il y a un attentat une semaine avant le second au premier tour, à qui va-t-il servir. C'est ça la question.
Et puis de comparer Papivoise, parce qu'on se souvient, Papivoise, c'était Paul Voise qui était un retraité.
Expliquez-nous, monsieur Pascal Pont,
c'est quoi Papivoise, c'est la veille de l'élection de 2002. Jacques Chirac, on le sait, va terminer en finale contre Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, il y a un retraité qui est agressé chez lui à Orléans. Et ça, il est roué de coups, il est rançonné, me semble-t-il. Sa maison brûle et il va témoigner dans tous les grands médias. Alors, est-ce que c'est la veille ou l'avant-veille de l'élection présidentielle premier tour de 2002? Et il se trouve que Jean-Marie Le Pen, comme vous le savez, sera au deuxième tour. Et certains ont fait un lien de cause à effet entre Papivoise et le fait que Jean-Marie Le Pen était devant Lionel Jospin. Bon. C'est toujours plus facile pour ceux qui perdent de dire que c'est de la faute des médias ou de la faute d'un fait divers.
Mais
de comparer Papivoise avec les tueries de Toulouse et de Montauban qui ont fait 7 morts, dont 3 enfants, écoutez, c'est quand même très étonnant. C'est quand même très étonnant.
Écoutez, dernière intervention, est-ce qu'il est vraiment complotiste? Moi, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, on a quand même une catégorie de complotistes en France qui ne croit pas que l'homme a marché sur la ligne, qui ne croit pas, qui croit que le Covid c'est une invention de l'Igarçu, qui croit que si vous mettez un vaccin et à votre téléphone qui va coller à votre bras, parce que c'est une bonne chose puisqu'on n'aura plus à le mettre dans la ceinture. Et lui, il s'adresse à ces gens-là parce que demain, dans 6 mois, il restera la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui va faire plaisir à tous les complotistes de France.
Merci Abdelatif. Et justement, ça, le sujet dont vous parlez, je le trouve très intéressant. Amis complotistes, appelez-nous. Est-ce que vous êtes soumis à des tests complotistes? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que les complotistes vivent leur âge d'or. Alors évidemment, des complots en même temps, ça, il y a aussi eu des complots dans l'histoire. C'est-à-dire que lorsque Ravaillac tue Henri IV, c'était un complot, on le sait aujourd'hui. Donc parfois, il y a eu des complots. Donc c'est pour ça que c'est un sujet assez intéressant. Et au-delà de Jean-Luc Mélenchon, ça serait bien de développer ce thème-là. Vous êtes d'une nature complotiste, Greg Caravani?
Absolument pas.
Ou est-ce que vous croyez ce qu'on vous dit avec naïveté?
Pas tout, certaines choses, certainement.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'homme a marché sur la Lune?
Bien sûr.
Mais oui. Et les complotistes, vous avez vu, dans un dîner, ils ont toujours le bon rôle. Parce qu'ils te disent, t'es vraiment un imbécile, quoi. Tu crois ça? Tu crois vraiment que l'homme a marché sur la Lune? Non, mais t'es vraiment, franchement.
Du coup.
Et ils te ressortent toujours un article qu'ils ont lu avec une base vraie, etc. Donc toi, t'es toujours un peu démuni face à un complotiste. C'est passionnant, l'esprit complotiste.
Mais du coup, vous avez des amis complotistes puisque vous dînez avec des complotistes. Non,
mais ça nous est tous arrivé, pas des amis. Forcément, on ne dîne pas qu'avec des amis. On va dans un dîner et puis il y a des gens qui sont là et on se dit, lui,
Est-ce qu'on peut dire qu'un complotiste platiste peut trouver que la Terre ne tourne pas rond, par exemple?
C'est une bonne question. On va y répondre après la pub. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Un appel pour que quelqu'un défende Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est intéressant d'écouter ceux qui ont envie, pourquoi pas, de lui faire confiance, de s'exprimer. Peut-être est-ce le cas de Nadia. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Nadia, qu'avez-vous pensé des propos de Jean-Luc Mélenchon ?
Moi, je ne les trouve pas choquants, au risque de vous choquer et de choquer la plupart de vos auditeurs, là, qui ont l'air tous unanimes. Bon, on dit qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Il a le droit de dire ce qu'il dit, parce que si on le renvoie à chaque fois au complotisme, donc ça voudrait dire qu'il y a des millions de Français qui sont complotistes dans ce pays. D'ailleurs, c'est un sujet tabou, hein, vous n'en parlez jamais, de tous ces gens qui ne pensent pas comme la majorité pense, enfin médiatique surtout, hein, parce que tout ça, ça reste dans les médias. Et puis Jean-Luc Mélenchon, même moi, je ne suis pas d'accord qu'ils disent que bon, il y a certainement un complot pour laisser faire ces terroristes, pour montrer les musulmans du doigt. Mais bon, ça fait 20 ans qu'on montre les musulmans du doigt dans ce pays. Depuis les attentats de 2001, ça n'a pas arrêté. Des milliers d'émissions, des milliers de bouquins écrits pour dire donc qu'il y a quand même un but politique derrière tout ça. Ça ne se ferait pas s'il y avait des gens, s'il n'y avait pas des puissants derrière qui sont prêts à payer pour ça. Donc,
c'est pas vraiment la question. La question, c'est est-ce que, d'abord, vous avez raison, la liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il veut. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il met un lien de causalité, je le répète, entre le fait que se tienne une élection présidentielle et le fait qu'il y ait des attentats dramatiques.
D'accord.
Donc, qui déclencherait ces attentats dramatiques, selon lui? D'ailleurs, il dit « il ».
Non, il ne s'agit pas de ça.
C'est exactement ce qu'il dit.
Dites-moi, Monsieur Pro, vous n'avez jamais pensé, comment se fait-il que depuis 20 ans, c'est autant médiatisé ces attentats? Parce que les attentats d'extrême droite, ils sont toujours arrêtés à temps. Ceux-là,
Mais Nadia, c'est pas, on ne les médiatise pas quand vous avez le Bataclan ou Charlie Hebdo vous dites oui, vous savez combien de morts au Bataclan?
Oui, je sais combien de morts, mais si on compte combien de morts à Bagdad, monsieur, combien de morts dans tous ces pays musulmans?
Mais Nadia, ce que vous dites n'a pas de rapport. Ce qui se passe à Bagdad, les morts de Bagdad n'intéressent pas exactement, pardonnez-moi de le dire comme ça, la France de la même manière que les morts au Bataclan à Paris.
La France ne joue pas un rôle dans tout ce qui se passe. Les 1 million de petits enfants irakiens morts sous l'embargo américain, c'est rien. Le 11 septembre efface tout ça. On s'en fout.
Mais
le 11 septembre, ça efface les 1 million de petits enfants morts à petit feu. Tout le monde s'en fout de ça.
Donc, au fond, vous partagez un peu ce que dit Jean-Luc Mélenchon, son analyse. D'ailleurs, vous avez le droit, hein, Nadia. Moi, j'ai demandé que quelqu'un partage son avis. Je ne le conteste pas.
Je dis seulement que si ce terrorisme-là dit islamique, parce que c'est justement, il y a le mot islamique derrière, sinon vous n'en parleriez pas autant, dit islamique. Donc si ce terrorisme-là est si dangereux, pourquoi perdure-t-il? Pourquoi on ne fait rien pour l'éradiquer?
Mais on fait beaucoup de choses pour l'éradiquer, Nadia.
Non, il faut l'éradiquer, un pays comme la France.
Mais on ne peut pas, vous savez, des personnes seules, d'abord, qui agissent seules, vous aurez toujours du mal à pouvoir contrôler...
Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien ce qui se passe. Non pas que je suis d'accord avec lui surtout, mais il sait très bien qu'aujourd'hui, le système a décidé de mettre en avant l'extrême droite. L'extrême droite est à la mode.
Quel système, Nadia?
Vous savez très bien, ce n'est pas M. Macron qui dirige tout, vous le savez, ça. Enfin... Monsieur Macron,
L'extrême droite en vedette? C'est les gens qui décident, c'est les gens qui votent, c'est les gens. Vous savez, ils sont matures, les gens, donc ils se rendent compte. Pour faire simple.
Excusez-moi, vous voyez bien que vous-même, les journalistes, vous lui sautez tout le temps à la gorge. Donc vous savez très bien que c'est pas lui le pouvoir, vous le savez.
Mais on ne lui saute pas à la gorge, Nadia, c'est lui-même qui dit quelque chose qui fait réagir.
Aujourd'hui, regardez, Marine Le Pen, elle ne risque pas, elle fait attention.
Exactement, vous avez parfaitement raison, elle fait très attention à ce qu'elle dit actuellement.
Parce qu'elle veut arriver au pouvoir, elle veut être au pouvoir, donc qu'elle s'est totalement soumise. Regardez.
Soumise à quoi?
Ben, elle s'est soumise à, voilà, je veux dire, au système en général, quoi. Au système qui fait que, voilà, on va lui faire de bons reportages, de bonnes émissions. On va dire qu'elle est pour la laïcité alors que c'est pas du tout. On va dire qu'elle est contre le communautarisme alors qu'elle est elle-même contre le elle est elle-même communautariste, plutôt. Monsieur Mélenchon, il va participer à une manifestation pour... contre l'islamophobie, on le traite de islamo-gauchiste. Quand il participe à une manifestation contre la judéophobie, la personne dit que c'est un judéo-gauchiste. Ou même Marine Le Pen, quand elle y va, personne dit que c'est une judéo-droitiste. Donc tout est comme ça, en fait.
Nadia, moi j'avais demandé que quelqu'un défende la position de Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter. Et puis après, les auditeurs se font une opinion, c'est le principe.
La majorité que vous allez passer vont être contre lui, vont dire que c'est etc.
Nadia, c'est pas la majorité qu'on va passer, c'est la question qu'on a posée. Il y a 79% des gens qui pensent que ce qu'il a dit est complotiste.
Mais parce que c'est des vieux. Regardez, moi j'ai 32 ans. J'ai découvert votre radio en regardant une dame dont je m'occupais. Ça faisait 50 ans que j'écoutais votre radio.
Je m'aperçois quand même qu'il a fait 18% la dernière fois. Jean-Luc Mélenchon, ça m'étonnerait qu'il les retrouve, si vous me permettez.
Monsieur Pro, vous savez que la France, elle est vieille. Et donc, est-ce que vous pensez que vos émissions sont là pour les rassurer, pour leur faire du bien? D'accord, ils vous écoutent et après, ils ont leur dose et ils vont dormir. Est-ce que leur quotidien change? Est-ce que la délinquance, elle est éradiquée? Vous ne parlez que de ça. Est-ce que c'est éradiqué, ça? Tout est là, tous les problèmes sont là.
Finalement, vous êtes sur la même position que Marine Le Pen, puisque elle n'a jamais été au pouvoir et elle dit ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous votez Marine Le Pen, là, précisément, la délinquance, selon elle, sera éradiquée sans doute pas, mais sera en tout cas fortement attaquée.
Je vais vous dire, moi, je suis d'accord sur le social avec Jean-Luc Mélenchon, mais pour la sécurité, je peux vous assurer que... Il y en a ras-le-bol.
Merci Nadia. Je vous confirme qu'il y en a ras-le-bol parce qu'effectivement, les gens vivent assez mal cette période. C'était intéressant notre petit dialogue avec Nadia qui n'était pas d'accord, non pas avec moi d'ailleurs, mais qui n'était pas d'accord, semble-t-il, avec les auditeurs qui condamnaient depuis le départ Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. RTL.
Roland Garros 2021.
Y a-t-il eu un complot, Isabelle Langer, pour éliminer Roger Federer, plus exactement pour qu'il se retire du tournoi?
Il n'a pas été.
Mais exactement, pour qu'il se retire.
Il a choisi de partir. Il part sur une victoire, écoutez.
Je suis d'accord avec vous, mais moi, ça m'a rendu triste parce qu'à 1h du matin, et puis la classe de Roger Federer à 1h du matin, qui arrive en conférence de presse et qui dit au stade où j'en suis, je peux rester et répondre aux questions. C'est quand même la très, très grande classe.
C'est vrai, je suis d'accord. Et moi, je trouve que, voilà, on peut lui taper dessus, dire que ce n'est pas la classe de se retirer du tournoi comme ça. Mais quand on a 40 ans, qu'on a tellement donné pour son sport et qu'on essaye de faire un dernier tour de piste, et il connaît son corps, hein. Il sait qu'il ne faut pas le pousser. Et puis surtout, il n'a jamais abandonné dans un match, dans un tournoi. Donc il n'avait pas envie de se présenter sur le court face à Berrettini et de dire au bout de 3 jeux, désolé, mon genou, j'ai peur et je me retire. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié...
Il n'est pas français, je crois, Roger Federer. Hein.
Il est suisse. Je vous donne quelques résultats. On a eu des belles choses ce matin, vous savez. Elle s'appelle Coco Gauff. Elle a 17 ans. Elle s'appelle Coco Gauff.
Coco Gauff.
Ouais. Elle a 17 ans, c'est une Américaine. Elle est 25e au classement mondial et elle a surclassé la Tunisienne Ons Jabeur en 2-7-6-3-6-1. Elle avait gagné Roland-Garros chez les juniors en 2018. C'est son 4e succès en 2-7 ici cette année. Et la voilà pour la première fois de sa carrière en quart de finale où elle retrouvera une jeune femme qui marche actuellement, la Tchèque Barbora Krejčíková, qui a gagné à Strasbourg juste avant Roland-Garros, qui en est à son 9e succès d'affilée puisqu'elle a dominé l'Américaine Sloane Stephens. Le match entre Djokovic et Musetti vient juste de démarrer sur le court central. Et puis pour info, sachez que la petite sœur de Gaël Monfils a perdu presque logiquement, j'ai envie de dire, chez les juniors face à la numéro 9 du tournoi, la Russie Tchenko, et que le fils de Björn Borg s'est lui qualifié pour le deuxième tour. Il a battu un Français.
Ça c'est classique. Votre nouveau Nadal, là, Carlos Alcaraz, il va falloir encore attendre un petit peu, Isabelle.
Il a 17 ans, laissons-le grandir.
Oui, bien sûr. Puisque vous parlez de grandir,
Laurent Tessier est avec nous. Merci Isabelle. Et c'est pas mal de 8 jours plus tard, Roland Garros, qui a un peu plus de soleil. Et peut-être que ça donnera une idée aux organisateurs de décaler désormais la quinzaine de simplement 8 jours. Pourquoi pas?
Nous vous attendons au 32-10, Pascal, sur cette question que nous allons aborder dans un instant. Éric Zemmour doit-il être candidat à l'élection présidentielle de 2022? Peut-être qu'il faut passer à l'action. Déclaration du polémiste dans une vidéo diffusée hier soir.
Je dois avouer, mais ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, le suicide français à 2014, vous voyez, tous mes livres commencent à dater. Et je ne vois pas de politique qui mette en œuvre cela. Donc, je réfléchis à la suite.
Et dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a réagi à cette hypothèse.
Quel est l'intérêt de cette candidature? Objectivement, c'est une candidature qui peut être aidée, en réalité, Emmanuel Macron, à arriver en tête aux élections présidentielles. Donc je lui dis, Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté, n'affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
Et vous lui avez dit, les yeux dans les yeux, comme on dit?
Oui, je lui ai dit, oui.
La présidentielle est une affaire sérieuse, lance Nadine sur nos réseaux sociaux. Éric Zemmour n'a pas l'expérience nécessaire. Jean-Luc s'interroge, peut-il avoir les parrainages? J'en doute. Pour Nathalie, je le préfère à sa place de chroniqueur, éditorialiste, mais Carlos se dit que nous ne pouvons pas nous passer, je cite, d'un homme brillant qui fait les bons diagnostics sans langue de bois.
On en parlera dans une seconde, mais un dernier témoignage sur Jean-Luc Mélenchon avec Michel, bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Qui est, vous êtes tout à fait d'accord avec la sortie de Jean-Luc Mélenchon, dites-vous?
Oui, je suis très honoré d'abord que vous me donniez la parole. Donc j'ai écouté Madame Nadia avant, et puis après, c'est tout. Alors, donc, je n'ai jamais appartenu... J'ai 85 ans. Je suis toujours en activité parce que j'ai 350 euros de retraite par mois, n'est-ce pas? Et donc, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. J'ai eu des fonctions pour et j'ai rencontré des gens de tous les bords. J'ai toujours respecté les hommes et les femmes politiques. Et le restant ne m'intéresse pas. Monsieur Mélenchon, je ne le connais pas, je n'ai jamais voté pour qui que ce soit, mais je peux dire que je respecte. Et il a eu le courage de dire quelque chose qui existe depuis longtemps. Ce qu'il a dit n'est pas autre chose que ce que l'ENA dispense comme cours à ses élèves. C'est provoquer un événement pour pouvoir en profiter après. Et les hommes politiques de tous les attentats ont profité, à commencer par M. Hollande et compagnie, qui a fait venir tout un tas de chefs d'État.
Si vous me permettez, Michel, c'est pas ce qu'il dit. L'instrumentalisation, c'est autre chose. Sous-entend, c'est que il y a eu... c'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Il peut imaginer que l'État commandite un attentat pour servir les intérêts du pouvoir. C'est ça qu'il dit.
Je pense pas. Je pense que M. Mélenchon ne dit pas que des bêtises et s'en est de loin.
Pour moi, ça, dans la phrase, vous verrez que dans la dernière semaine présidentielle, nous aurons un grave incident. Je ne sais pas comment vous lisez littéralement cette phrase. Ce que vous dites, Michel, si vous me permettez.
Il est en avance, c'est tout.
Oui, mais il est en avance. Non, mais il y a que ça qui nous intéresse. L'instrumentalisation. Vous avez raison, personne ne le conteste, que des attentats dans des temps difficiles puissent servir le pouvoir. J'ai envie de dire, hélas, effectivement, dans ces cas-là, il y a un réflexe où on va à l'autorité, où on va à celui qui est en place. Je peux entendre ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit.
Oui, enfin bon.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou pas?
Non, je suis d'accord sur le fait qu'il a le courage de dire ce que bon mal de gens pensent. C'est-à-dire que, de toute façon, les hommes et les femmes politiques actuelles, et avant, se servent de ces événements, voilà, pour...
Mais j'entends, Michel, mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est ça qui est... Ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas ce qu'il dit. Donc, c'est un dialogue, pardonnez-moi, sourd, enfin, puisque moi je suis d'accord je peux être d'accord avec ce que vous vous dites, mais c'est pas ce qu'il a dit.
Moi, je suis prête à être face à lui pour discuter de cette affaire-là. Vous voyez, personne ne me fait peur dans le sens où, quand on est honnête, on doit discuter avec tout le monde.
Mais vous avez évidemment raison.
Vous êtes honnête, et que vous discutez avec moi.
Mais parce que cette phrase, je lis. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur cette phrase. Oui, nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça. Oui. Donc il sous-entend que tout ça est organisé.
Le recul, c'est là qu'on juge la parole des gens, c'est avec le recul. C'est pas à chaud. À chaud, c'est très facile d'interpréter.
Mais j'interprète pas, je lis. Hein ?
Non, mais je parle pas de vous, attendez, je suis pro.
Oui, mais moi, je vous interroge sur ce qu'il a dit. Oui, et ce qui est amusant, c'est que vous dites non, il l'a pas dit. Alors qu'il l'a dit.
Non. Je dis pas qu'il l'a pas dit, parce que je l'ai pas lu, et je suis l'actualité essentiellement à la radio. Je n'ai pas de télévision parce que je suis écœuré. Donc, j'écoute la radio et RTL depuis que je suis gosse.
Ça, vous avez raison.
La famille du raton, j'ai connu.
Ça, ça nous rejoint. Bon, en tout cas, merci Michel. Merci de ce témoignage. Et comme on va recevoir à 13h45, je presse le pas, monsieur Lévy.
Oui. Je vous dis seulement au plaisir de vous reparler.
En tout cas, merci. Et puis, vous êtes encore en activité, disiez-vous, à 85 ans ?
Ah, bien sûr, je suis bien obligé si je veux manger avec 350 euros par mois.
Mais qu'est-ce que vous faites ?
Je suis artisan tapissier.
C'est fou. Et pourquoi vous avez une retraite si faible alors que le minimum vieillesse est au-dessus de 350 euros ?
Bon, ça fera l'objet certainement de choses puisque nous regroupons pour combattre les mafias des tribunaux de commerce et de l'URSSAF.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le minimum vieillesse, il est au-dessus de 350 euros.
Ça fait un an que je le réclame, mais naturellement, vous pensez bien que, vu mon opinion, vu ma façon de faire...
Mais comment est-il possible que vous n'ayez pas non plus le minimum vieillesse ?
Mais non, mais vous ne connaissez pas la CARSAT. La CARSAT, vous ne savez pas ce que c'est ?
Non.
Apprenez ce que c'est. C'est une bande d'escrocs, c'est tout.
Écoutez, j'en sais rien, mais je trouve ça incroyable que vous n'ayez pas au minimum, je le répète, le minimum vieillesse.
Ça fait un an depuis qu'il y a les... Moi, j'ai jamais tendu la main. Mais quand il y a eu les événements, j'ai demandé à avoir Mais ça fait un an qu'on me trimballe. Un jour, c'est ceci. Un jour, c'est cela. Mais vous inquiétez pas. Ça va venir.
C'est pas normal.
Et là, vous serez... Mais non, il n'y a rien...
C'est pas normal, Michel. Je connais pas votre cas, mais c'est pas normal.
Qu'est-ce qu'il y a de normal en France ? Dites-moi voir un peu.
Y a certaines choses peuvent l'être, mais en tout cas, ça, c'est pas normal. Merci, Michel. Et bon courage, vraiment, c'est même... J'ai toujours du mal, moi, à comprendre comment est-ce possible qu'un homme de 85 ans soit encore obligé de travailler parce qu'il n'a même pas le minimum vieillesse. Qui est d'ailleurs, qui permet pas de vivre, de rouler sur l'or, loin de là. Mais c'est mieux que la situation qu'est la sienne aujourd'hui. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est une question qui est dans l'actualité. Éric Zemmour doit-il être candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Nous sommes avec Mathéo qui est étudiant en droit. Bonjour Mathéo. Que répondez-vous à cette question ?
Si Éric Zemmour doit se présenter à la présidentielle ?
Exactement, c'est la question.
Eh bien, je dirais non. Non. Je suis droitisant plutôt, on va dire, et j'ai fréquenté les milieux militants de droite, et on est beaucoup, je dirais même la majorité de la droite française. J'ai rarement rencontré dans une fédé de droite des gens qui étaient hostiles à Éric Zemmour, mais il ne serait pas du tout à sa place dans le politique. Lui-même s'est présenté pendant de très longues années et continue, même si c'est un peu moins ces derniers temps, à se présenter comme polémiste. Et lui qui a un grand sens de l'histoire, lui qui a un grand sens de l'homme, de l'humanité, des choses, il n'a malheureusement pas l'envergure par sa place à la présidence de la République. Et il est en train malheureusement de se soumettre à l'ego. Comment ne pas le faire hein, on peut le comprendre, il a des sollicitations de partout qui sont sérieuses. Maintenant, il est excellent, je pense, en rôle de remueur de gourbi, je dirais.
De gourbi,
pour pas dire un autre mot. Coluche aurait dit remueur de merde, mais je laisse.
J'espère qu'il est mieux que cela quand même, que il serait pas tellement content de cette définition. C'est un polémiste, c'est un intellectuel de droite, c'est un idéologue de droite, avec des qualités et des défauts. Le défaut des idéologues, c'est que tout doit rentrer dans la bouteille. C'est ça qui est parfois ennuyeux.
Exactement.
Ils ont une grille de lecture et tout doit rentrer dans la bouteille.
Mais c'est ce que je me disais récemment lorsque il y a des rumeurs qui ont commencé à courir sur sa volonté de se présenter à la présidence. Malheureusement, il a un niveau intellectuel qui est celui d'un idéologue, pour moi le plus brillant polémiste actuellement en France, qui fait qu'il serait complètement incohérent avec le niveau politique actuel. malheureusement, à ses dépens, il se ridiculiserait parce qu'il serait, je pense, à côté de la plaque, malgré tout le bien que je peux penser de lui, sur des débats où il aura en face de lui des gens qui seront beaucoup plus dans de la communication que dans l'idéologie. Et malheureusement, le grand souci des idéologues, c'est qu'ils pensent, mais ils ne proposent pas. Et autant Zemmour peut être brillant sur un constat, brillant sur l'histoire, je ne sais pas forcément si les solutions qu'il propose seraient extrêmement viables. Et puis Zemmour président, c'est aussi une question, c'est so what, c'est-à-dire qui dans les ministres, qui dans les ministères.
On n'en est pas là, convenez-en. Mathéo, Francis est là également, merci Mathéo. Francis, qui est enseignant, pour ou contre la candidature Zemmour ?
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs. Ben, écoutez, pour moi, c'est un faux débat. On agite quelque chose pour voir quel impact ça pourrait avoir sur l'électorat de Marine Le Pen, qui va faire encore entre 7 et 8 millions de voix au premier tour l'année prochaine, et qui risquerait d'être devant Emmanuel Macron au premier tour. Or, on sait qu'il y a une prime au premier tour, à celui qui finit premier au premier tour. Donc, il faut affaiblir Marine Le Pen. Pour affaiblir Marine Le Pen, il faut aller chercher quelqu'un qui n'a pas de machine derrière lui. Pour être candidat et pour être président, il faut une grosse machine. Il faut une grosse machine financière, il faut une grosse machine de militants. Donc aujourd'hui, Éric Zemmour a des sympathisants, comme l'auditeur précédent, ou comme moi. Je trouve qu'il est très très bon dans les analyses. Mais il n'a pas de machine, donc il a des sympathisants, pas de militants. Qui va les distribuer les tracts ? Qui va les coller ? Qui va les afficher ?
Donc vous dites non, organiser ? Aucun intérêt.
Ben ça n'a d'un intérêt que pour Emmanuel Macron, pour éventuellement faire que Marine Le Pen ne termine pas première au premier tour, mais deuxième.
Vous rejoignez ce que disait Marine Le Pen il y a une seconde. Ben merci Francis et Mathéo, on vous laisse ce mini-sondage. Deux auditeurs, c'est vraiment un mini-mini sondage. Mais les deux considèrent que ça n'a pas tellement d'intérêt qu'Éric Zemmour se présente. Et les deux, visiblement, sont de sensibilité un peu de droite. Donc, ils ont peur, effectivement, que cette candidature Zemmour soit un frein à celle, peut-être, de Marine Le Pen. On va marquer une pause et on va parler, figurez-vous, d'une enquête de Harris Interactive, et nous sommes avec son directeur délégué, Jean-Daniel Lévy, bonjour. Et on va parler de cette enquête sur l'allongement de tous les âges de la vie, c'est assez mystérieux.
Et là, ce ne sera pas un échantillon de deux personnes, hein ?
Non, non, bien évidemment, mais l'allongement...
Enfin, j'espère.
L'allongement, c'est déjà, on va définir cette notion, l'allongement de tous les âges de la vie. Est-ce que l'âge adulte dure plus longtemps ? Intéressant. Non, Greg ? Bon, il s'est endormi.
C'est très intéressant, mais j'ai hâte qu'on y arrive. On fait une pause en attendant.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h52. On est donc avec Monsieur Lévy. Rebonjour.
Rebonjour.
C'est très intéressant. Vous êtes directeur délégué de Harris Interactive. Et donc, vous avez fait une enquête sur l'allongement de tous les âges de la vie. Alors, ça veut dire quoi, l'allongement des âges de la vie ?
Alors déjà, c'est une enquête qu'on a réalisée pour AG2R La Mondiale. Plus de 7000 personnes qui ont été interrogées. L'allongement des temps de la vie, ça veut dire que, d'une manière générale, lorsqu'on interroge les Français et quand on leur demande l'enfance, l'adolescence, la vie active, la retraite, voire même le quatrième âge, est-ce qu'on a le sentiment que ce sont des périodes qui sont, par rapport à avant, plus courtes, qui durent sensiblement le même temps ou qui durent plus longtemps. Et avec globalement, mis à part pour l'enfance, la perception que tous les âges de la vie ont tendance à augmenter, qu'on reste adolescent plus longtemps, qu'on est dans une vie active plus longtemps, qu'on est à la retraite plus longtemps et que voire même la période de quatrième âge dure plus longtemps. Et globalement, c'est plutôt bien apprécié de la part de nos compatriotes. C'est plutôt bien apprécié et même le fait aujourd'hui qu'on soit amené à vieillir plus longtemps et à avoir une espérance de vie qui augmente est apprécié de la part des citoyens qu'on a été amené à interroger et avec le sentiment qu'on vit quand même mieux aujourd'hui passer la période qui peut être la période de la vie active.
Alors, je comprends pour l'adolescence parce qu'effectivement, on a tous des adolescents et puis on voit bien qu'on entre un peu plus tard qu'on entrait il y a 50 ans dans la vie active. Je peux comprendre également pour la vieillesse, puisqu'effectivement, on vit plus longtemps. Mais je ne comprends pas le temps adulte.
Le temps adulte, c'est le temps en fait où on a le sentiment qu'on est vraiment complètement en pleine possession de ses moyens. Le moment en fait où on a la possibilité de pouvoir mener différentes activités.
Bah, si on est adolescent plus longtemps et qu'on est vieux encore plus longtemps, forcément on est adulte un peu moins longtemps. Forcément, c'est un peu mécanique ce que je dis.
Ça peut être mécanique, mais en fait avec la perception que déjà en fait les âges peuvent être amenés à se recouvrir quelque peu. C'est-à-dire qu'on peut être et adolescent et adulte, on peut être et adolescent et encore présent au foyer, on peut être et adulte et en même temps présent encore au foyer de ses parents, mais également en ayant plusieurs types de responsabilités et notamment un côté qui est un côté assez crucial de la part des adultes, c'est le moment où ils peuvent et être en charge de leurs enfants et de leurs adolescents qui vont rester plus longtemps chez eux et en même temps en charge de leurs parents qui vont rester encore en vie et qui vont avoir besoin d'un appui de la part des parents qui vont être justement dans cette phase où ils vont être dans un entre-deux, pas pouvoir complètement profiter pleinement de leur vie, pas avoir leurs enfants qui ont quitté le foyer ou en tout cas qui auront toujours besoin d'avoir une forme de soutien matériel, et on voit dans le cas de cette enquête qu'il y a besoin encore d'un soutien de la part notamment des jeunes générations, et puis en parallèle devoir aider ces parents qui peuvent se retrouver dans une difficulté ou dans une phase qui va être une phase de dépendance.
Alors, Elisabeth est avec nous, puisque les auditeurs vont intervenir, peut-être pour vous poser des questions d'ailleurs, et puis peut-être pour commenter. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans votre sondage, mais Elisabeth...
Oui, bonjour.
Je peux dire votre âge, Elisabeth?
Oui, bien sûr, 70
bon.
Ans.
Bon, vous êtes aujourd'hui 70 ans, oui. Je ne vais pas dire que c'est jeune, mais en tout cas, ce n'est pas vieux.
Eh bien voilà, c'est le problème. Voilà,
pourquoi c'est le problème?
Parce que moi, avant, lorsque j'étais petite fille, on me disait 70 ans, je voyais quelqu'un de vraiment âgé. Bon, ben là, c'est pas le cas. Alors donc, si vous voulez, on vieillit mieux, on vieillit beaucoup mieux. Je pense grâce aux traitements médicaux, grâce à la vie, la retraite est beaucoup plus tôt. On peut, et puis c'est agréable parce qu'on peut profiter de ses enfants grands, de ses petits-enfants et même parfois arrière-petits-enfants. Donc tout ça, c'est bien. Mais pour vivre bien quand on vieillit, on revient toujours au même problème, il faut des moyens pécuniaires.
Ben oui.
Le problème, il est là. Parce que si vous voulez, bon, quand vous avez une retraite, si vous voulez profiter de votre retraite, ben, il faut quand même avoir une bonne retraite.
C'est quoi une bonne retraite d'ailleurs, Elisabeth, selon vous?
Ben, avoir les moyens de vivre.
Oui, mais c'est quelle pension mensuelle?
Ah ben alors ça, regardez-vous, alors là, vous, c'est très beau, vous me dites, ben je sais pas, parce que je suis une privilégiée, et ben j'en sais rien, ça doit être 3000 euros par mois, je me dis, ben je vais
vous
pas dire...
Vous pensez que 3000 euros, on vit 3000, largement
non,
on vit en retraite
bien. Non, non, on vit pas bien, parce que non, vous voyez, je veux pas dire de bêtises, parce qu'il y a
alors,
des...
Alors, d'ailleurs, je vous coupe, mais ça dépend si on a, si on paye un
si
loyer ou pas,
soi,
ou si on a sa maison ou pas, ce qui change tout.
Mais voilà, donc là, c'est une question à moi, c'est pas bien de me poser ça, et je suis confuse, parce que, bon, mais ce que je vois, c'est que, bon, maman est morte, est décédée à 96 ans, je m'en suis occupée jusqu'au bout, et il faut aussi que les enfants s'occupent. Lorsqu'on arrive à un grand âge, bon, on vieillit bien, mais il y arrive un moment où on est moins bien. Donc, à ce moment-là, il faut une aide matérielle. Il faut de l'argent, je suis désolée, il faut de l'argent. Et même quand on est en EHPAD, il y a des personnes qui n'ont plus rien et qui vont difficilement. C'est ça qui
alors,
va
monsieur Lévy va peut-être commenter ce que vous dites. Est-ce que vous retrouvez dans le témoignage d'Elisabeth ce que vous avez retrouvé dans votre enquête?
Absolument. Et dans le cadre de cette enquête réalisée pour AG2R La Mondiale, on voit bien qu'on a 60% des Français qui considèrent qu'aujourd'hui, il est plus facile de vieillir que par le passé. Et que c'est d'autant plus vrai qu'on interroge des personnes âgées et qui vont exactement faire le même type de constat, c'est-à-dire comment a vécu la génération de mes parents ou comment a vécu la génération de mes grands-parents. Avec certes des interrogations qui concernent les aspects financiers, mais également en parallèle, la perception qu'on est globalement plus en bonne santé passé l'âge de la vie active et que dans ce contexte-là, on arrive à avoir une activité où on ne se sent pas vieux, si vous me permettez l'expression, et où on se sent encore pleinement en capacité de ses moyens, en capacité de pouvoir s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, éventuellement, comme c'est le cas potentiellement de ses parents encore, lorsque ceux-ci sont encore en vie. Et donc, les conditions dans lesquelles on peut être amené à vieillir aujourd'hui sont quand même plus confortables, entre guillemets, ou de meilleure qualité que cela pouvait l'être il y a encore de cela une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Alors, on continuera évidemment cette discussion. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, entre 65 et 85 ans, je pense qu'on vieillit mieux, on vit mieux qu'on ne le vivait il y a 50 ans. En revanche, qu'on arrive dans le quatrième âge, après 85 et parfois 90 ans, les deux ou trois ou quatre dernières années de vie sont parfois très pénibles. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont Alzheimer, qui sont impotents, etc. C'est-à-dire qu'à comme on a reculé évidemment l'âge de la mort, les dernières années parfois sont très dures, évidemment.
C'est tout l'enjeu de la dépendance.
Et je pense effectivement à Alzheimer, qui est très douloureux, bien sûr, pour les enfants dont les parents sont victimes de cette maladie. On va marquer donc une pause. À 14h, ça va être notre ami Olivier Bois. qui est là, qui est jeune et sémillant, lui.
À tout de suite.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Olivier Bois.
Et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, va aller dans l'espace. Il est le fondateur, par ailleurs, de la société spatiale Blue Origin. Il va donc participer au premier voyage touristique dans l'espace avec son frère. Décollage le 20 juillet, le troisième ticket va être soumis à tirage au sort. Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Les soutiens du leader de la France insoumise affirment qu'il est victime d'un faux procès et d'un acharnement. Jean-Luc Mélenchon a dit hier qu'il était écrit qu'il y aurait un incident, un meurtre avant la présidentielle. Il a cité Mohamed Merah ou l'attentat des Champs-Élysées en 2017 pour, notamment, dit-il, nuire aux musulmans. Les familles de victimes de Mohamed Merah dénoncent des propos indignes. On est à 6000 cas de Covid détectés tous les jours en France en moyenne depuis une semaine, alors que mercredi, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement. Réouverture des restaurants en intérieur et couvre-feu à 23h. Les salles de sport aussi rouvrent. Après la panne des numéros d'urgence, Orange rendra public le rapport d'enquête interne le 11 juin, dans 4 jours. On s'en souvient, le 15, le 17, le 18, le 112 avaient été perturbés la semaine dernière pendant plusieurs heures. Partons à Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2021.
On vous retrouve, Isabelle Langer, porte d'Auteuil.
Avec Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, opposé à l'italien Lorenzo Musetti, 19 ans, 76e mondial. Je peux vous dire qu'il joue crânement sa chance, hein, Musetti. Il a été breaké d'entrée de jeu quasiment par Djokovic, mais il a refait son retard. Il y a 3 partout entre les deux hommes après 33 minutes de jeu. Je vous rappelle que celui qui l'emportera retrouvera en quart de finale Berrettini, qualifié d'office après le forfait de Roger Federer. Sur le court, Suzanne Lenglen, Monsieur Schwartzmann et Monsieur Struff, l'allemand. Je dis Struff parce qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé un mail pour me dire que je prononçais mal. Ça s'écrit Struff.
Vous aviez dit quoi ?
Bah, ça s'écrit Struff, en fait, si je veux le prononcer à la française, mais on dit Struff. Donc Struff a perdu la première manche 7-6, 11 points à 9 au tie-break. Un match de dingo sur ce court, parce que Struff menait 5-1 dans le tie-break, mais il n'a pas réussi à conclure ce tie-break. Donc il est mené un 7-0 par l'Argentin, qui était demi-finaliste ici l'an dernier, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Isabelle Langer. Après Julien Alaphilippe, le cycliste français Romain Bardet renonce lui aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, incompatible selon lui avec son programme de course de fin de saison. Le 15, c'était à Vichy, voici l'arrivée provisoire à l'instant. Le 4, le 15, le 12, le 6 et le 11.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et nous continuons la discussion avec Jean-Daniel Lévy, qui est directeur délégué de Harris Interactive France, enquête sur l'allongement de tous les âges de la vie. Il y a quelque chose aussi qui ressort de cette enquête, c'est la possibilité de changer de vie.
Oui, absolument. Une possibilité de changer de vie qui est appréciée de la part des Français. On dit souvent en fait que les Français sont des Gaulois réfractaires ou conservateurs. Ils n'ont pas forcément envie de changer de vie et qu'ils ont envie de rester toujours dans la même situation. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas et qu'ils sont prêts globalement à pouvoir connaître au cours notamment de leur vie professionnelle de nouvelles expériences, de nouvelles activités, de changer même complètement d'activité, d'avoir une nouvelle profession et que ils y sont prêts. Avec parfois le sentiment que la société française n'est pas entièrement prête à cela et que tout n'est pas forcément mis en avant pour qu'on puisse les aider à pouvoir connaître ces différents temps de la vie en fonction de leur état de forme, en fonction du lieu dans lequel ils peuvent être habiter ou éventuellement en fonction de leur environnement familial. Donc on est quand même beaucoup plus prêt à pouvoir changer au cours de sa vie, notamment au regard du premier constat, c'est-à-dire on a un temps de vie qui est plus important et on a notamment un temps de vie actif qui apparaît comme étant plus important. Donc pourquoi ne pas avoir plusieurs vies au sein d'une même vie ?
Désir de quitter parfois la ville. J'entendais ce matin sur RTL un reportage d'un instituteur qui était allé à Ouessant et qui évidemment avait complètement changé de vie. Et puis il y avait également des témoignages de personnes qui voulaient autre chose. C'est vrai que quitter la grande ville, c'est souvent une aspiration qui revient. Et puis cette pandémie aura peut-être accéléré les choses. Nous sommes avec Evelyne. Bonjour Evelyne, qui habite Perpignan.
Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour.
Est-ce que vous diriez que la vie d'aujourd'hui, bonjour Evelyne, elle est bonjour. Plus facile que elle celle, par exemple, de douce. Vos parents ou de vos grands-parents ?
Elle est beaucoup plus douce maintenant, bien sûr, beaucoup plus douce maintenant. Attendez, excusez-moi, il y a mon chien qui aboie. Oui, elle est beaucoup plus douce maintenant. Puis je me rends compte d'une chose, c'est que les parents, ils partaient pas, ils restaient dans leur maison, ils partaient pas comme nous. Moi, vous voyez, du jour au lendemain, je suis partie à Perpignan sans connaître personne. Et j'ai 70 ans. Donc, je pense que la vie est beaucoup plus douce. Maman, elle n'avait pas ses loisirs que moi j'ai. Je fais de la sculpture, je fais de la peinture, je fais... il faut dire qu'ils ont eu des travaux durs. Mon papa était tourneur à l'usine, maman faisait des ménages. Ils ont pas eu la vie facile, hein, nos parents.
Ils sont décédés à quel âge, vos parents?
Alors, mon père est mort jeune, 74 ans. Maman, bon, on l'a pris un peu en charge et tout. Et puis, maman, elle avait un peu mon caractère. Donc, maman est décédée à 88 ans.
Ah oui, ce qui est quand même là dans un bel âge.
Oui, elle est décédée dans un bel âge. Et puis, elle est décédée dans son lit. Donc, pas d'Alzheimer, pas d'hôpital, pas d'EHPAD. Et merci mon Dieu, hein, je vous assure que ça nous a vraiment fait plaisir, en fait, que ça s'est passé comme ça.
Non, mais bon, en tout cas, vous avez le sentiment que la vie est plus douce aujourd'hui. Oh, oui. Et ça, c'est un thème, Monsieur Lévy, évidemment, qui revient et qu'on comprend aisément, que la vie, a priori, elle est plus douce aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, même pour les personnes âgées.
Elle est plus douce, et puis on a le sentiment d'être plus facilement en bonne santé. Mmh. Et c'est surtout, en fait, l'aspect essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, d'ailleurs, tous les débats, qui sont les débats sur le temps passé à la retraite ou le quatrième âge, que ce n'est pas uniquement le temps de la retraite en tant que telle, mais on a envie que ce soit une retraite active. On a envie d'être encore, précisément, avec sa famille, avec des loisirs, avec une activité culturelle, avec la possibilité de pouvoir même se sentir utile pour la société. On a même aujourd'hui, en fait, une majorité de Français qui dit qu'ils aimeraient pouvoir, en même temps qu'ils sont à la retraite, pouvoir continuer à avoir une activité, notamment professionnelle. Donc, dans ce contexte-là, et c'est ce que montre, en fait, cette grande enquête réalisée, qu'on a la possibilité de pouvoir également être en bonne santé. Et que c'est le critère qui est le critère absolu.
Mais c'est le critère,
d'où le débat qu'on peut avoir habituellement sur même l'âge de départ à la retraite, avec des Français qui veulent profiter de leur retraite pleinement.
Ben merci Monsieur Lévy, on va parler avec Agnès, mais lorsque vous parlez avec des gens qui ont passé 70 ans, le premier critère c'est je me réveille le matin, je suis en bonne forme, donc je remercie le ciel. Parce qu'effectivement, quand tu as 70 ans, 75 ans, tu as des amis qui ont eu des AVC, tu as eu des amis qui ont un cancer, tu as des amis qui sont malades, etc., etc. Donc ça devient le critère qui n'est pas... qui devient le critère, le plus important sans doute à cet âge-là. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Monsieur Lévy, restez encore quelques secondes avec nous et pour écouter, pourquoi pas, les témoignages et peut-être les commenter. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour Monsieur Lévy. Je voudrais, moi, voyez-vous, dire que c'est vrai que c'est une chance inouïe de vieillir en bonne santé. Mais que c'est pas évident parce que, bon, on n'est pas à la merci d'un accident de la vie, etc. Et quand on commence, quand on vieillit, à avoir un accident de la vie où on peut avoir des fractures ou, je sais pas, une vertèbre cassée ou autre, eh bien, après, c'est pas évident de bien vieillir. Et actuellement, si vous voulez, moi j'ai la société, elle va très vite. Tout va énormément vite. Et par exemple, moi j'ai une personne très âgée que j'ai été voir samedi, il lui manque un médicament. Un médicament qu'on fait à l'extérieur et qu'on n'a plus. Là, c'est en rupture de stock. Il est très mal. Et c'est quelqu'un qui a eu trois maladies graves, qui a réussi à atteindre quand même là presque 90 ans. Et il va être en difficulté parce qu'il n'arrive pas à avoir ses médicaments. Et puis bon, si on n'a pas un bon médecin aussi, qui va être là au bon moment, qui va pouvoir nous envoyer à l'hôpital en bonne ou pas, hein, ça peut être une hospitalisation à domicile, au bon moment, si on n'a pas cela, et ben ça peut aussi mal se passer. Voyez-vous, moi j'ai accompagné mes parents de 80, mes parents ont eu 92 ans et 96 ans, ils sont décédés à cet âge-là, ils ont été à domicile, mais c'est vrai que la vieillesse a été compliquée, parce que aussi être à domicile, quand on veut y rester, c'est cher, quand on est de conditions moyennes. Et c'est pas évident que tout le monde arrive à avoir un bon maintien à domicile parce que ça coûte cher. Naturellement, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui s'en occupe, mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est pas
non, mais vous illustrez, Agnès, exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire passer un certain âge, le paramètre le plus important, c'est la santé, parce que tout change après. Et c'est ce que nous disions avec M. Lévy.
Oui. Oui, oui, suis d'accord avec vous, Pascal, mais moi, je pense pas qu'on va... Vous savez, actuellement, je pense pas qu'on va faire... on va avoir des personnes âgées, très âgées. Parce que j'ai aussi une personne qui, normalement, avait des protocoles parce qu'elle avait une sclérose en plaques. Elle en bénéficiait. Et à partir de 75 ans, on lui a dit de non, vous êtes trop vieux. Voyez-vous, ça se passe actuellement comme ça. Et si, et effectivement, ça, c'est pas pour aller loin dans, pour vieillir longtemps, ça. Quand on a des médicaments au moins, tout ça. La société, elle est trop rapide actuellement. Tout va trop vite. Je pense pas qu'un bon médecin, ça va se passer par le net. Hein.
Jean-Daniel Lévy, peut-être commente ce que vous venez de dire.
Ben, enfin, toutes les données là, AG2R, la mondiale qu'on a recueillies, montrent qu'une des questions qui se pose, c'est savoir sur qui on peut compter.
Ben
sur
oui.
qui on peut compter lorsqu'on a un coup dur ou lorsqu'on a une difficulté. On a aujourd'hui 15% des personnes qu'on a interrogées qui nous déclarent « je ne peux compter sur personne ». Et donc, en fait, qui n'ont personne sur leur entourage, dans leur entourage. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'en général, le nombre de personnes sur lesquelles on peut compter se retrouve sur le doigt, sur le nombre de, enfin, de, nombre de doigts d'une main. Donc, on a très peu, dans son entourage, de personnes vers lesquelles on peut être amené à se retrouver. Et en général, ça va être une ou deux. Pas plus.
Ce qui m'est arrivé.
Et voilà. Et donc, dans ce contexte-là, se pose forcément la question de la solidarité et se pose la question qui ne peut être pas uniquement un lien interpersonnel, mais également un lien intergénérationnel ou une interrogation sur la société ou les différents acteurs de la société.
Oui. Bah, merci beaucoup, Agnès, de votre témoignage.
Pascal, monsieur Lévy, merci de m'avoir appelé.
Bah non, vraiment, merci. C'était intéressant d'écouter.
Je suis très content de vos émissions. C'est super.
Et bah, c'est très gentil. Dominique, qui habite Rennes. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Témoignage également. C'est beaucoup de femmes qui nous appellent aujourd'hui sur ce sujet. Peut-être sont-elles plus sensibilisées que les hommes. Dominique, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur l'allongement de cette période de la vie ?
Alors moi, je pense qu'on peut bien vieillir si on s'en donne les moyens à l'avance. C'est-à-dire qu'il existe depuis 1985 des garanties invalidité-dépendance, perte d'autonomie. La seule chose, c'est que les Français ne veulent pas souscrire de contrat, ou très peu, ils n'ont pas confiance. Et ils ont l'impression de perdre de leur argent. Alors que, à côté de ça, ils peuvent souscrire des contrats d'assurance pour leur voiture ou autre qui coûtent très cher. Et moi, j'ai eu le cas dans ma famille où j'ai eu deux personnes dépendantes qui ont touché des rentes et qui ont évité en fait d'avoir, d'une part, d'être obligées de vendre leur maison ou qui ont, ça a permis de les mettre dans un certain confort. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que tout passe par l'argent ou par le pouvoir. Donc, si on veut se prémunir de la dépendance, Nicolas Sarkozy l'avait dit, je suis pas spécialement pour ce monsieur, mais bon, il faut quand même penser qu'on doit s'assurer par rapport à la dépendance, de façon à toucher des rentes à vie complémentaires à nos revenus, pour avoir un confort de vie et pouvoir payer les tierces personnes dont on a besoin pour pouvoir faire face.
Alors, question à Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'effectivement des gens qui ont 60, 65 ans souscrivent des assurances en imaginant que dans 10 ans, ils seront impotents, invalides et qu'ils auront besoin d'aide?
Pas toujours. En fait, on sait qu'en France, en général, un, on place l'argent sur le livret A. Deux, on va éventuellement placer de l'argent dans un bien immobilier. Un bien immobilier qu'on va avoir tendance à conserver, dans lequel on va chercher à habiter le plus longtemps possible. Ou alors, éventuellement, dont on se dit qu'on va pouvoir le transmettre à ses enfants. Mais c'est vrai, après, que tout ce qui correspond à des processus de capitalisation, c'est-à-dire de mise de côté d'argent, apparaît comme étant beaucoup moins fort dans la société française que par le passé, notamment parce qu'on a des systèmes de solidarité qui existent, et notamment parce qu'on y aspire d'un point de vue général. En dehors de cela, ce qui est assez frappant, c'est que même avant même de se retrouver dans cette situation-là, on a un tiers des Français qui a été confronté au fait de devoir prêter de l'argent à ses parents ou à ses grands-parents. Donc des processus intergénérationnels qui font que, ben, globalement, on ne va pas forcément aller voir au-delà, mais on va aller également regarder du côté de sa descendance pour leur demander de l'argent ou éventuellement la descendance peut être amenée à donner de l'argent à ses aînés.
Ben merci cette fois, Monsieur Lévy. On va marquer une pause et puis on va conclure cette émission avec d'autres sujets peut-être, parce qu'aujourd'hui il y avait une actualité très très forte. Il y a une caissière par exemple du groupe Carrefour qui a été la cible d'injures racistes. Si vous souhaitez intervenir sur ce sujet, est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de la PMA? C'était également une question pour aujourd'hui. Les difficultés du confinement et le développement du télétravail, ça aussi c'est intéressant. Donc il nous reste une dizaine de minutes. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
André est avec nous pour évoquer la PMA, puisque ça revient à l'Assemblée nationale. C'est la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Le projet de loi est au programme de l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. La droite ne désarme pas, mais l'adoption définitive approche. Nous sommes avec André. Qu'en pensez-vous, André ?
Allô ?
Oui, André. Que pensez-vous
oui,
de ce projet ? Bonjour, André. Comment
oui,
allez-vous ?
Comme je disais, la PMA pour les femmes infertiles, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ça me gêne un petit peu que des femmes, des homosexuels, réclament le droit à avoir un enfant.
Pourquoi ?
Et parce que si elles sont homosexuelles, c'est que bon, elles ne veulent pas d'hommes. Et si elles ne veulent pas d'hommes, pourquoi vouloir les spermatozoïdes d'un homme ?
Mais parce qu'elles veulent un enfant, précisément.
Oui, d'accord.
Elles veulent pas d'hommes, mais elles veulent un enfant. Mais
d'accord, c'est... elles veulent pas d'hommes, elles veulent une femme. Donc, on est soit d'un côté ou soit de l'autre. On ne peut pas être des deux côtés à la fois.
Mais... D'abord, André, vous avez un accent formidable. Vous êtes sympathique.
Oui, mais
c'est vrai qu'André, comment vous dire ça ? Moi, c'est souvent générationnel, ces questions-là. Je peux dire votre âge, André, vous avez 71 ans. Le monde change, André. Vous n'avez plus la France dans laquelle vous êtes né, n'est plus la France dans laquelle vous allez...
accepter que ce monde change.
Mais qu'est-ce que ça vous... Pour vous, qu'est-ce que ça change, par exemple ? Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Pascal, je vous entends très mal.
Bon, ben, on va continuer la discussion demain. Appelez-nous demain, parce que moi, ça m'intéresse, André. On est d'accord ? Vous m'appelez demain ?
Oui, mais j'espère que la communication sera meilleure. Parce
ah ben bah oui, c'est... mais ça, je suis pas au PTT, si j'ose dire, qui n'existe plus, d'ailleurs, les PTT. 14h22, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Jean-Luc Mélenchon a-t-il tenu des propos complotistes ? C'est le sujet qui vous a fait réagir ce midi au Standard. Premier épisode hier sur Radio France.
Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées.
Nouvel épisode quelques secondes après.
Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà.
Alors, le leader de la France insoumise est-il devenu complotiste ? Oui, pour Raphaël.
Le général de Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. Il y en a certains qui, comme M. Mélenchon, organisent tout à fait consciemment leur naufrage.
Et Raphaël ne s'arrête pas là au Standard.
Il est en plein naufrage, donc il fait tout pour qu'on parle de lui. Et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, les artistes.
Bah, c'est sa dernière élection, de toute façon, parce que là...
Oui. Faut espérer.
Bon, pour équilibrer le débat, lancez un appel, Pascal.
Amis complotistes, appelez-nous.
Où sont-ils ? Où êtes-vous ?
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de votre
parti. Ils sont sur les réseaux sociaux.
Les envahisseurs.
Et Pascal, vous les connaissez bien, j'ai l'impression.
C'est l'heure d'inviter un complotiste à dîner.
Mais oui, la Terre est plate. Enfin, on n'a jamais marché sur la Lune. Enfin, Tintin, Laurent, si, quand même.
Fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news.
Les complotistes, vous avez vu, dans un dîner, ils ont toujours le beau rôle. Parce qu'ils te disent, bah, non mais t'es vraiment un imbécile, quoi. Tu crois ça ? Tu crois vraiment que l'homme a marché sur la Lune ? Non mais t'es vraiment, franchement.
Du coup,
et ils te ressortent toujours un article qu'ils ont lu avec une base vraie, etc. Donc toi, t'es toujours un peu démuni face à un complotiste.
Mais si vous pensiez que Jean-Luc Mélenchon était...
C'est le monde.
Non, Nadia a appelé pour défendre le leader de la France insoumise.
Moi, je ne les trouve pas choquants, au risque de vous choquer. On dit qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Il a le droit de dire ce qu'il dit. Si on le renvoie à chaque fois au complotisme, donc ça voudrait dire qu'il y a des millions de Français qui sont complotistes dans ce pays.
Et mesdames, messieurs, nous sommes un jour important.
C'est lundi.
Dans mon lit.
C'est lundi.
Dans mon lit.
C'est Jesse Garonne.
Exactement.
C'est lundi dans mon lit.
Et surtout, chers amis,
belle semaine de soleil.
Oui, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Qui dit lundi, dit soleil, dit...
Avec les PTT, hein, le lundi au soleil. Est-ce que Flavie Flamand est là aujourd'hui? Elle va arriver dans une seconde.
Je la vois dans le couloir là-bas.
Elle est dans le couloir?
Absolument, elle arrive.
Merveilleuse. Et il est 14h25, nous marquons une pause et nous recevons Flavie.
Et Isabelle Langer.
Ah, Isabelle maintenant?
Juste après la pause.
A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.